Bonjour, nous vous proposons ce jour une nouvelle émission de notre série consacrée à l'œuvre de Marcel Proust. Un certain nombre de personnages traversent toute la recherche. Parmi ceux-ci, et un des plus hauts en couleur, est le baron de Charlus, personnage qui doit beaucoup, paraît-il, au comte de Montesquieu dans la vraie vie. Je le dis parce qu'un individu pareil ne peut pas s'inventer de toutes pièces. Impossible d'en cerner tous les contours en une heure de diction. Mais nous vous proposons quelques tableaux qui vous mettront au cœur du grandiose personnage. Et libre à vous de retrouver dans vos connaissances et relations, voire en vous-même, des traits ici décrits. Charlus est un peu fou, au moins par moments, mais comme l'a écrit Baudelaire, nous sommes tous plus ou moins fous. Bonne écoute.
« Allons, Gilberte, viens, qu'est-ce que tu fais ?» cria d'une voix perçante et autoritaire une dame en blanc que je n'avais pas vue, et à quelque distance de laquelle un monsieur habillé de coutil, et que je ne connaissais pas, fixait sur moi des yeux qui lui sortaient de la tête, et cessant brusquement de sourire, la jeune fille prit la bêche et s'éloigna sans se retourner de mon côté, d'un air docile, impénétrable et sournois. Le lendemain matin du jour où Robert m'avait ainsi parlé de son oncle, tout en l'attendant, vainement du reste, comme je passais seul devant le casino en rentrant à l'hôtel, j'eus la sensation d'être regardé par quelqu'un qui n'était pas loin de moi. Je tournai la tête et j'aperçus un homme d'une quarantaine d'années, très grand et assez gros, avec des moustaches très noires et qui, tout en frappant nerveusement son pantalon avec une badine, fixait sur moi des yeux dilatés par l'attention. Par moments, ils étaient percés en tous sens par des regards d'une extrême activité, comme en ont seuls devant une personne qu'ils ne connaissent pas des hommes à qui, pour un motif quelconque, elle inspire des pensées qui ne viendraient pas à tout autre, par exemple, des fous ou des espions. Il lança sur moi une suprême œillade à la fois hardie, prudente, rapide et profonde, comme un dernier coup qu'on tire au moment de prendre la fuite. Et après avoir regardé tout autour de lui, prenant soudain un air distrait et hautain, par un brusque revirement de toute sa personne, il se tourna vers une affiche, dans la lecture de laquelle il s'absorba, en fredonnant un air et en arrangeant la rose mousseuse qui pendait à sa boutonnière. Il sortit de sa poche un calepin sur lequel il eut l'air de prendre en note le titre du spectacle annoncé, tira deux ou trois fois sa montre, abaissa sur ses yeux un canotier de paille noire dont il prolongea le rebord avec sa main, mise en visière, comme pour voir si quelqu'un n'arrivait pas, fit le geste de mécontentement par lequel on croit faire voir qu'on en a assez d'attendre, mais qu'on ne fait jamais quand on attend réellement. Puis rejetant en arrière son chapeau et laissant voir une brosse coupée ras, qui admettait cependant de chaque côté de longues ailes de pigeons ondulées, il exhala le souffle bruyant des personnes qui ont non pas trop chaud, mais le désir de montrer qu'elles ont trop chaud. J'eus l'idée d'un escroc d'hôtel qui, nous ayant peut-être déjà remarqué les jours précédents, ma grand-mère et moi, et préparant quelques mauvais coups, venait de s'apercevoir que je l'avais surpris pendant qu'il m'épiait. Pour me donner le change, peut-être, cherchait-il seulement, par sa nouvelle attitude, à exprimer la distraction et le détachement. Mais c'était avec une exagération si agressive que son but semblait au moins autant que de dissiper les soupçons que j'avais dû avoir, de venger une humiliation qu'à mon insu je lui eusse infligée, de me donner l'idée non pas tant qu'il ne m'avait pas vu, que celle que j'étais un objet de trop petite importance pour attirer son attention. Il cambrait sa taille d'un air de bravade, pinçait les lèvres, relevait ses moustaches et dans son regard ajustait quelque chose d'indifférent, de dur, de presque insultant. Si bien que la singularité de son expression me le faisait prendre tantôt pour un voleur et tantôt pour un aliéné. Cependant, ma grand-mère m'avait fait signe de monter me coucher, malgré l'insistance de Saint-Loup qui, à ma grande honte, avait fait allusion devant monsieur de Charlus à la tristesse que j'éprouvais souvent le soir avant de m'endormir et que son oncle devait trouver quelque chose de bien peu viril. Je tardais encore quelques instants, puis m'en allais, et fut bien étonné quand, un peu après, ayant entendu frapper à la porte de ma chambre et ayant demandé qui était là, j'entendis la voix de monsieur de Charlus qui disait d'un ton sec « C'est Charlus. Puis-je entrer, monsieur ?»« Monsieur, » reprit-il du même ton une fois qu'il eut refermé la porte, « mon neveu racontait tout à l'heure que vous étiez un peu ennuyé avant de vous endormir, et d'autre part, que vous admiriez les livres de Bergotte. Comme j'en ai dans ma malle un que vous ne connaissez probablement pas, je vous l'apporte pour vous aider à passer ces moments où vous ne vous sentez pas heureux. » Je remerciais monsieur de Charlus avec émotion, et lui dit que j'avais au contraire eu peur que ce que Saint-Loup lui avait dit de mon malaise à l'approche de la nuit m'eût fait paraître à ses yeux plus stupide encore que je n'étais. « Mais non, répondit-il avec un accent plus doux, vous n'avez peut-être pas de mérite personnel, je n'en sais rien. Si peu d'êtres en ont. Mais pour un temps du moins, vous avez la jeunesse, et c'est toujours une séduction. D'ailleurs, monsieur, la plus grande des sottises, c'est de trouver ridicule ou blâmable les sentiments qu'on n'éprouve pas. J'aime la nuit, et vous me dites que vous la redoutez. J'aime sentir les roses, et j'ai un ami à qui leur odeur donne la fièvre. Croyez-vous que je pense pour cela qu'il vaut moins que moi? Je m'efforce de tout comprendre et je me garde de rien condamner. En somme, ne vous plaignez pas trop. Je ne dirai pas que ces tristesses ne sont pas pénibles. Je sais ce qu'on peut souffrir pour des choses que les autres ne comprendraient pas. Mais du moins, vous avez bien placé votre affection dans votre grand-mère. Vous la voyez beaucoup. Et puis c'est une tendresse permise, je veux dire. Une tendresse payée de retour. Il y en a tant dont on ne peut pas dire cela. Il marchait de long en large dans ma chambre, regardant un objet en soulevant un autre. J'avais l'impression qu'il avait quelque chose à m'annoncer et ne trouvait pas en quel terme le faire. J'ai un autre volume de Bergotte ici et je vais vous le chercher, ajouta-t-il et il sonna. Un groom vint au bout d'un moment. Allez me chercher votre maître d'hôtel. Il n'y a que lui qui soit capable de faire une commission intelligemment, dit monsieur de Charlus avec hauteur. Monsieur aimé, monsieur? Demanda le groom. Je ne sais pas son nom. Mais si, je me rappelle que je l'ai entendu appeler aimé. Allez vite, je suis pressé. Il va être tout de suite ici, monsieur. Je l'ai justement vu en bas, répondit le groom, qui voulait avoir l'air au courant. Un certain temps se passa, le groom revint. « Monsieur, monsieur aimé est couché. »« Mais je peux faire la commission. »« Non, vous n'avez qu'à le faire lever. »« Monsieur, je ne peux pas, il ne couche pas là. »« Alors laissez-nous tranquille. »« Mais monsieur, dis-je, le groom partit, vous êtes trop bon, un seul volume de Bergotte me suffira. » C'est ce qui me semble, après tout. Monsieur de Charlus marchait. Quelques minutes se passèrent ainsi, puis, après quelques instants d'hésitation, et se reprenant à plusieurs fois, il pivota sur lui-même et de sa voix redevenue cinglante, il me jeta « Bonsoir, monsieur !» et partit. Après tous les sentiments élevés que je lui avais entendu exprimer ce soir-là, le lendemain qui était le jour de son départ, sur la plage dans la matinée, au moment où j'allais prendre mon bain, comme monsieur de Charlus s'était approché de moi pour m'avertir que ma grand-mère m'attendait aussitôt que je serais sorti de l'eau, je fus bien étonné de l'entendre me dire, en me pinçant le cou avec une familiarité et un rire vulgaire, « Mais on s'en fiche bien de sa vieille grand-mère, hein, petite fripouille ?»« Comment, monsieur, je l'adore !»« Monsieur, me dit-il en s'éloignant d'un pas et avec un air glacial, vous êtes encore jeune. » Vous devriez en profiter pour apprendre deux choses. La première, c'est de vous abstenir d'exprimer des sentiments trop naturels pour n'être pas sous-entendu. La seconde, c'est de ne pas partir en guerre pour répondre aux choses qu'on vous dit avant d'avoir pénétré leur signification. Si vous aviez pris cette précaution il y a un instant, vous vous seriez évité d'avoir l'air de parler à tort et à travers comme un sourd, et d'ajouter par là un second ridicule à celui d'avoir des encres brodées sur votre costume de bain. Je vous ai prêté un livre de Bergotte dont j'ai besoin. Faites-le-moi rapporter dans une heure par ce maître d'hôtel au prénom risible et mal porté qui, je suppose, n'est pas couché à cette heure-ci. Vous me faites apercevoir que je vous ai parlé trop tôt hier soir des séductions de la jeunesse. Je vous aurais rendu meilleur service en vous signalant son étourderie, ses inconséquences et son incompréhension. J'espère, monsieur, que cette petite douche ne vous sera pas moins salutaire que votre bain. mais ne restez pas ainsi immobile, car vous pourriez prendre froid. Bonsoir, monsieur. Sans doute, eut-il regret de ces paroles, car quelque temps après, je reçus dans une reliure de maroquin sur le plat de laquelle avait été encastrée une plaque de cuir incisée qui représentait en demi-relief une branche de myosotis. Le livre qu'il m'avait prêté et que je lui avais fait remettre, non par Aimé qui se trouvait de sortie, mais par le liftier. Dans l'escalier, j'entendis derrière moi une voix qui m'interpellait. « Voilà comme vous m'attendez, monsieur. » C'était monsieur de Charlus. « Cela vous est égal de faire quelques pas à pied ?» me dit-il sèchement quand nous fûmes dans la cour. « Nous marcherons jusqu'à ce que j'aie trouvé un fiacre qui me convienne. » « Vous vouliez me parler, monsieur ?»« Ah, voilà, en effet. J'avais certaines choses à vous dire, mais je ne sais trop si je le ferai. »« Certes, je crois qu'elle pourrait être pour vous le point de départ davantage inappréciable. »« Mais j'entrevois aussi qu'elles amèneraient dans mon existence... » À mon âge où on commence à tenir à la tranquillité, bien des pertes de temps, bien des dérangements de tout ordre. Or, je me demande si vous valez la peine que je me donne pour vous tout ce tracas, et je n'ai pas le plaisir de vous connaître assez pour en décider. Je vous ai trouvé bien médiocre à Balbec, même en faisant la part de la stupidité inséparable du personnage de baigneur et du port de la chose appelée espadrille. Peut-être d'ailleurs, n'avez-vous pas de ce que je pourrais faire pour vous un assez grand désir pour que je me donne tant d'ennui, car je vous le répète très franchement, « Monsieur, pour moi, ce ne peut être, répéta-t-il en scandant les mots avec force, que des ennuis. » Je protestais qu'alors il n'y fallait pas songer. Cette rupture des pourparlers ne parut pas être de son goût. « Cette politesse ne signifie rien, me dit-il d'un ton dur. » Il n'y a rien de plus agréable que de se donner de l'ennui pour une personne qui en vaille la peine. Pour les meilleurs d'entre nous, l'étude des arts, le goût de la brocante, les collections, les jardins, ne sont que des ersatz, des succès d'années, des alibis. Dans le fond de notre tonneau, comme Diogène, nous demandons un homme. Nous cultivons les bégonias, nous taillons les ifs par pis-aller parce que les ifs et les bégonias se laissent faire. Mais nous aimerions mieux donner notre temps à un arbuste humain, si nous étions sûrs qu'il en valut la peine. Toute la question est là. Vous devez vous connaître un peu. En valez-vous la peine ou non ? « Je ne voudrais, monsieur, pour rien au monde être pour vous une cause de souci, lui dis-je. Mais quant à mon plaisir, croyez bien que tout ce qui me viendra de vous m'en causera un très grand. Je suis profondément touché que vous veuillez bien faire ainsi attention à moi et chercher à m'être utile. » À mon grand étonnement, ce fut presque avec effusion qu'il me remercia de ses paroles, passant son bras sous le mien avec cette familiarité intermittente qui m'avait déjà frappé à Balbec et qui contrastait avec la dureté de son accent. « Avec l'inconsidération de votre âge, me dit-il, vous pourriez parfois avoir des paroles capables de creuser un abîme infranchissable entre nous. Celles que vous venez de prononcer sont au contraire du genre qui est justement capable de me toucher et de m'entraîner à faire beaucoup, trop, peut-être pour vous. » Tout en marchant avec moi, bras dessous, et en me disant ces paroles qui, bien que mêlées de dédain, étaient si affectueuses, Monsieur de Charlus tantôt fixait ses regards sur mon visage avec cette fixité intense, cette dureté perçante qui m'avait frappé le premier matin où je l'avais aperçu devant le casino à Balbec, et même bien des années avant, près de l'épinier rose, à côté de Madame Swann, que je croyais alors sa maîtresse, dans le parc de Tansonville. Tantôt les faisait errer autour de lui et examiner les fiacres qui passaient assez nombreux à cette heure de relais, avec tant d'insistance que plusieurs s'arrêtèrent, le cocher ayant cru qu'on voulait le prendre. Mais Monsieur de Charlus les congédiait aussitôt. « Aucun ne fait mon affaire, me dit-il. Tout cela est une question de lanterne, du quartier où il rentre. Je voudrais, monsieur, me dit-il, que vous ne puissiez pas vous méprendre sur le caractère purement désintéressé et charitable de la proposition que je vais vous adresser. » J'avais un tel besoin que Monsieur de Charlus écoutât les récits que je brûlais de lui faire, que je fus cruellement déçu en pensant que le maître de maison dormait peut-être, et qu'il me faudrait rentrer cuver chez moi mon ivresse de paroles. Je venais en effet de m'apercevoir qu'il y avait 25 minutes que j'étais, qu'on m'avait peut-être oublié dans ce salon, dont malgré cette longue attente, j'aurais tout au plus pu dire qu'il était immense, verdâtre, avec quelques portraits. Le besoin de parler n'empêche pas seulement d'écouter, mais de voir, et dans ce cas, l'absence de toute description du milieu extérieur est déjà une description d'un état interne. J'allais sortir du salon pour tâcher d'appeler quelqu'un et, si je ne trouvais personne, de retrouver mon chemin jusqu'aux antichambres et de me faire ouvrir, quand au moment même où je venais de me lever et de faire quelques pas sur le parquet mosaïqué, un valet de chambre entra, l'air préoccupé. « Monsieur le baron a eu des rendez-vous jusqu'à maintenant, me dit-il. Il y a encore plusieurs personnes qui l'attendent. Je vais faire tout mon possible pour qu'il reçoive monsieur. J'ai déjà fait téléphoner 2 fois au secrétaire. Non, ne vous dérangez pas. J'avais rendez-vous avec monsieur le baron, mais il est déjà bien tard. » Et du moment qu'il est occupé ce soir, je reviendrai un autre jour. « Oh non ! Que monsieur ne s'en aille pas !» s'écria le valet de chambre. « Monsieur le baron pourrait être mécontent. » « Je vais de nouveau essayer. » Je me rappelais ce que j'avais entendu raconter des domestiques de monsieur de Charlus et de leur dévouement à leur maître. On ne pouvait pas tout à fait dire de lui comme du prince de Conti qu'il cherchait à plaire aussi bien aux valets qu'aux ministres. Mais il avait si bien su faire des moindres choses qu'il demandait une espèce de faveur que le soir, quand ses valets assemblés autour de lui à distance respectueuse, après les avoir parcourus du regard, il disait « Coignet, le bougeoir » ou « Ducret, la chemise », c'est en ronchonnant d'envie que les autres se retiraient, envieux de celui qui venait d'être distingué par le maître. J'attendis encore 10 minutes, et après m'avoir demandé de ne pas rester trop longtemps, parce que monsieur le baron, fatigué, avait dû faire éconduire plusieurs personnes des plus importantes, qui avaient pris rendez-vous depuis de longs jours, on m'introduisit auprès de lui. Cette mise en scène autour de monsieur de Charlus me paraissait empreinte de beaucoup moins de grandeur que la simplicité de son frère Guermantes. Mais déjà la porte s'était ouverte, je venais d'apercevoir le baron en robe de chambre chinoise, le cou nu, étendu sur un canapé. Je fus frappé au même instant par la vue d'un chapeau haute forme, 8 reflets sur une chaise avec une pelisse, comme si le baron venait de rentrer. Je croyais que monsieur de Charlus allait venir à moi. Sans faire un seul mouvement, il fixa sur moi des yeux implacables. Je m'approchai de lui, lui dis bonjour. Il ne me tendit pas la main, ne me répondit pas, ne me demanda pas de prendre une chaise. Au bout d'un instant, je lui demandai, comme on ferait à un médecin mal élevé, s'il était nécessaire que je restasse debout. Je le fis sans méchante intention, mais l'air de colère froide qu'avait monsieur de Charlus sembla s'aggraver encore. J'ignorais du reste que chez lui, à la campagne, au château de Charlus, il avait l'habitude après dîner, tant il aimait jouer au roi, de s'étaler dans un fauteuil au fumoir, en laissant ses invités debout autour de lui. Il demandait à l'un du feu, offrait à l'autre un cigare, puis au bout de quelques instants disait « Mais Argencourt, asseyez-vous donc, prenez une chaise, mon cher !» Et, ayant tenu à prolonger leur station debout seulement, pour leur montrer que c'était de lui que leur venait la permission de s'asseoir. « Mettez-vous dans le siège Louis XIV !» me répondit-il d'un air impérieux, et plutôt pour me forcer à m'éloigner de lui que pour m'inviter à m'asseoir. Je pris un fauteuil qui n'était pas loin. « Ah ! Voilà ce que vous appelez un siège Louis XIV. Ah, je vois que vous êtes un jeune homme instruit !» s'écria-t-il avec dérision. J'étais tellement stupéfait que je ne bougeais pas, ni pour m'en aller comme j'aurais dû, ni pour changer de siège comme il le voulait. « Monsieur, me dit-il, en pesant tous les termes dont il faisait précéder les plus impertinents d'une double paire de consonnes, l'entretien que j'ai condescendu à vous accorder, à la prière d'une personne qui désire que je ne la nomme pas, marquera pour nos relations le point final. Je ne vous cacherai pas que j'avais espéré mieux. Je forcerai peut-être le sens des mots, ce qu'on ne doit pas faire, même avec qui ignore leur valeur, et par simple respect pour soi-même, en vous disant que j'avais eu pour vous de la sympathie. Je crois pourtant que bienveillance, dans son sens le plus efficacement protecteur, n'excéderait ni ce que je ressentais, ni ce que je me proposais de manifester. Je vous avais, dès mon retour à Paris, fait savoir à Balbec même que vous pouviez compter sur moi. Moi, qui me rappelais sur quel incartade Monsieur de Charlus s'était séparé de moi à Balbec, j'esquissais un geste de dénégation. « Comment ? » s'écria-t-il avec colère. Et en effet, son visage convulsé et blanc différait autant de son visage ordinaire que la mer, quand un matin de tempête, on aperçoit, au lieu de la souriante surface habituelle, mille serpents d'écume et de bave. Vous prétendez que vous n'avez pas reçu mon message, presque une déclaration, d'avoir à vous souvenir de moi ? Qu'y avait-il comme décoration autour du livre que je vous fis parvenir ? De très jolis entrelacs historiés, lui dis-je. Ah ! Répondit-il d'un air méprisant. Les jeunes Français connaissent peu les chefs-d'œuvre de notre pays. Que dirait-on d'un jeune Berlinois qui ne connaîtrait pas la Valkyrie ? Il faut d'ailleurs que vous ayez des yeux pour ne pas voir, puisque ce chef-d'œuvre-là, vous m'aviez dit que vous aviez passé 2 heures devant. Je vois que vous ne vous y connaissez pas mieux en fleurs qu'en style. Ne protestez pas pour les styles, cria-t-il d'un ton de rage suraigu. Vous ne savez même pas sur quoi vous vous asseyez. Vous offrez votre derrière à une chauffeuse directoire pour une bergère Louis XIV. Un de ces jours, vous prendrez les genoux de Madame de Villeparisis pour le lavabo. Et on ne sait pas ce que vous y ferez. Pareillement, vous n'avez même pas reconnu dans la reliure du livre de Bergotte le linteau de myosotis de l'église de Balbec. Y avait-il une manière plus limpide de vous dire « Ne m'oubliez pas ?» Je regardais Monsieur de Charlus. Certes, sa tête magnifique et qui répugnait l'emportait pourtant sur celle de tous les siens. On eût dit Apollon vieilli, mais un jus olivâtre, hépatique, semblait prêt à sortir de sa bouche mauvaise. Pour l'intelligence, on ne pouvait nier que la sienne, par un vaste écart de compas, avait vu sur beaucoup de choses qui resterait toujours inconnu au duc de Guermantes. Mais de quelques belles paroles qu'il colora toutes ses haines, on sentait que même s'il y avait tantôt de l'orgueil offensé, tantôt un amour déçu ou une rancune, du sadisme, une taquinerie, une idée fixe, cet homme était capable d'assassiner et de prouver à force de logique et de beau langage qu'il avait eu raison de le faire et n'en était pas moins supérieur de 100 coudées à son frère, sa belle-sœur, etc., etc. Je vis Monsieur de Charlus qui ressortait de chez la marquise. À ce moment où il ne se croyait regardé par personne, les paupières baissées contre le soleil, Monsieur de Charlus avait relâché dans son visage cette tension, amorti cette vitalité factice qu'entretenait chez lui l'animation de la causerie et la force de la volonté. Pâle comme un marbre, il avait le nez fort, ses traits fins ne recevaient plus d'un regard volontaire une signification différente qui altéra la beauté de leur modelé. Clignant des yeux contre le soleil, il semblait presque sourire. Je trouvais à sa figure vue ainsi au repos et comme au naturel quelque chose de si affectueux, de si désarmé, que je ne pus m'empêcher de penser combien Monsieur de Charlus eût été fâché s'il avait pu se savoir regarder. Car ce à quoi me faisait penser cet homme, qui était si épris, qui se piquait si fort de virilité, à qui tout le monde semblait odieusement efféminé, ce à quoi il me faisait penser tout d'un coup, tant il en avait passagèrement les traits, l'expression, le sourire, c'était à une femme. J'allais me déranger de nouveau pour qu'il ne pût m'apercevoir. Je n'en eus ni le temps ni le besoin. Que vis-je, face à face dans cette cour où il ne s'était certainement jamais rencontré, le baron ayant soudain largement ouvert ses yeux mi-clos, regardait avec une attention extraordinaire l'ancien giletier sur le seuil de sa boutique, cependant que celui-ci clouait subitement sur place devant Monsieur de Charlus, enraciné comme une plante, contemplait d'un air émerveillé l'embonpoint du baron vieillissant. Mais chose plus étonnante encore, l'attitude de Monsieur de Charlus ayant changé, celle de Jupien se mit aussitôt, comme selon les lois d'un art secret, en harmonie avec elle. Le baron, qui cherchait maintenant à dissimuler l'impression qu'il avait ressentie, mais qui, malgré une indifférence affectée, semblait ne s'éloigner qu'à regret, allait, venait, regardait dans le vague de la façon qu'il pensait mettre le plus en valeur la beauté de ses prunelles, prenait un air fat, négligent, ridicule. Or Jupien, perdant aussitôt l'air humble et bon que je lui avais toujours connu, avait en symétrie parfaite avec le baron redressé la tête, donnait à sa taille un port avantageux, posait avec une impertinence grotesque son poing sur la hanche, faisant saillir son derrière, prenait des poses avec la coquetterie qu'aurait pu avoir l'orchidée pour le bourdon providentiellement survenu. Mais j'ignorais aussi qu'il fût capable de tenir à l'improviste sa partie dans cette sorte de scène des deux muets, qui, bien qu'il se trouvât pour la première fois en présence de Monsieur de Charlus, semblait avoir été longuement répété. On arrive spontanément à cette perfection que quand on rencontre à l'étranger un compatriote avec lequel l'entente se fait d'elle-même, le truchement étant identique. Et sans qu'on se soit pourtant vu, la scène préétablie. Cette scène n'était du reste pas positivement comique. Elle était empreinte d'une étrangeté, ou si l'on veut d'un naturel dont la beauté allait croissant. Monsieur de Charlus avait beau prendre un air détaché, baisser distraitement les paupières, par moments, il les relevait et jetait alors sur Jupien un regard attentif. mais sans doute parce qu'il pensait qu'une pareille scène ne pouvait se prolonger indéfiniment à cet endroit, par ce sentiment de la brièveté de toute chose qui fait qu'on veut que chaque coup porte juste et qui rend si émouvant le spectacle de tout amour. Chaque fois que M. de Charlus regardait Jupien, il s'arrangeait pour que son regard fût accompagné d'une parole. Ce qui le rendait infiniment dissemblable des regards habituellement dirigés sur une personne qu'on connaît peu ou qu'on ne connaît pas. Il regardait Jupien avec la fixité particulière de quelqu'un qui va vous dire « Pardonnez-moi mon indiscrétion, mais vous avez un long fil blanc qui pend dans votre dos, ou bien « Je ne dois pas me tromper, vous devez être aussi de Zurich, il me semble bien vous avoir rencontré souvent chez le marchand d'antiquités. » Tel, toutes les deux minutes, la même question semblait intensément posée à Jupien dans l'œillade de Monsieur de Charlus, comme ces phrases interrogatives de Beethoven répétées indéfiniment, à intervalles égaux et destinées avec un luxe exagéré de préparation à amener un nouveau motif, un changement de ton, une rentrée. Mais justement, la beauté des regards de M. de Charlus et de Jupien venait au contraire de ce que, provisoirement du moins, ces regards ne semblaient pas avoir pour but de conduire à quelque chose. Cette beauté, c'était la première fois que je voyais le baron et Jupien la manifester. Dans les yeux de l'un et de l'autre, c'était le ciel, non pas de Zurich, mais de quelque cité orientale dont je n'avais pas encore deviné le nom qui venait de se lever. Quel que fût le point qui put retenir M. de Charlus et le giletier, leur accord semblait conclu, et ces inutiles regards n'être que des préludes rituels, pareils aux fêtes qu'on donne avant un mariage décidé. Plus près de la nature encore. Et la multiplicité de ces comparaisons est elle-même d'autant plus naturelle qu'un même homme, si on l'examine pendant quelques minutes, semble successivement un homme oiseau, un homme moisson, un homme insecte. On eût dit deux oiseaux, le mâle et la femelle, le mâle cherchant à s'avancer, la femelle, Jupien, ne répondant plus par aucun signe à ce manège, mais regardant son nouvel ami sans étonnement, avec une fixité inattentive, jugée sans doute plus troublante et seule utile du moment que le mâle avait fait les premiers pas et se contentant de lisser ses plumes. Enfin, l'indifférence de Jupien ne parut plus lui suffire. De cette certitude d'avoir conquis à se faire poursuivre et désirer, il n'y avait qu'un pas et Jupien, se décidant à partir pour son travail, sortit par la porte cochère. Ce ne fut pourtant qu'après avoir retourné deux ou trois fois la tête qu'il s'échappa de la rue où le baron, tremblant de perdre sa piste, sifflotant d'un air fanfaron, non sans crier un « au revoir » au concierge qui a demi-sou et traitant des invités dans son arrière-cuisine, ne l'entendit même pas, s'élança vivement pour le rattraper. Au bout de quelques minutes, Jupien revint, suivi par le baron. Celui-ci, décidé à brusquer les choses, demanda du feu au giletier, mais observa aussitôt « Je vous demande du feu, mais je vois que j'ai oublié mes cigares. » Les lois de l'hospitalité l'emportèrent sur les règles de la coquetterie. « Entrez, on vous donnera tout ce que vous voudrez, » dit le giletier, sur la figure de qui le dédain fit place à la joie. La porte de la boutique se referma sur eux, et je ne pus plus rien entendre. Pour le moment, j'étais fort ennuyé de ne plus entendre la conversation de l'ancien giletier et du baron. J'avisai alors la boutique à louer, séparée seulement de celle de Jupien par une cloison extrêmement mince. Mais quand je fus dans la boutique, évitant de craquer le moins du monde le plancher, en me rendant compte que le moindre craquement dans la boutique de Jupien s'entendait de la mienne, je songeais combien Jupien et Monsieur de Charlus avaient été imprudents et combien la chance les avait servis. Je n'eus même pas à regretter de n'être arrivé qu'au bout de quelques minutes dans ma boutique. Car d'après ce que j'entendis les premiers temps dans celle de Jupien, et qui ne furent que des sons inarticulés, je suppose que peu de paroles furent prononcées. Il est vrai que ces sons étaient si violents que s'ils n'avaient pas été toujours repris une octave plus haut par une plainte parallèle, j'aurais pu croire qu'une personne en égorgeait une autre à côté de moi, et qu'ensuite le meurtrier, sa victime ressuscitée, prenait un bain pour effacer les traces du crime. J'en conclus plus tard qu'il y a une chose aussi bruyante que la souffrance, c'est le plaisir. Surtout quand s'y ajoutent des soucis immédiats de propreté. Enfin, au bout d'une demi-heure environ, une conversation s'engagea. Jupien refusait avec force l'argent que Monsieur de Charlus voulait lui donner. Quand, dès le premier jour, Monsieur de Charlus s'était enquis de ce qu'était Morel, certes, il avait appris qu'il était d'une humble extraction. Mais une demi-mondaine que nous aimons ne perd pas pour nous son prestige parce qu'elle est la fille de pauvres gens. En revanche, les musiciens connus à qui il avait fait écrire, même pas par intérêt, comme les amis qui, en présentant Swann à Odette, la lui avaient dépeinte comme plus difficile et plus recherchée qu'elle n'était, par simple banalité d'homme en vue surfaisant un débutant, avait répondu au baron « Ah, grand talent, grosse situation !» Étant donné naturellement qu'il est un jeune, très apprécié des connaisseurs, fera son chemin. Et par la manie des gens qui ignorent l'inversion à parler de la beauté masculine. Et puis, il est joli à voir jouer. Il fait mieux que personne dans un concert. Il a de jolis cheveux, des poses distinguées. La tête est ravissante et il a l'air d'un violoniste de portrait. Aussi, Monsieur de Charlus, surexcité d'ailleurs par Morel, qui ne lui laissait pas ignorer de combien de propositions il était l'objet, était-il flatté de le ramener avec lui, de lui construire un pigeonnier où il revint souvent? Car le reste du temps, il le voulait libre, ce qui était rendu nécessaire par sa carrière, que M. de Charlus désirait, tant d'argent qu'il dut lui donner, que Morel continua. Soit à cause de cette idée très guermante qu'il faut qu'un homme fasse quelque chose qu'on ne vaut que par son talent et que la noblesse ou l'argent sont simplement le zéro qui multiplie une valeur, soit qu'il eut peur que Oisif ait toujours auprès de lui, le violoniste s'ennuya. Enfin, il ne voulait pas se priver du plaisir qu'il avait lors de certains grands concerts à se dire « Celui qu'on acclame en ce moment sera chez moi cette nuit. » Les gens élégants, quand ils sont amoureux, et de quelque façon qu'ils le soient, mettent leur vanité à ce qui peut détruire les avantages antérieurs où leur vanité eût trouvé satisfaction. Morel, me sentant sans méchanceté pour lui, sincèrement attaché à M. de Charlus, et d'autre part d'une indifférence physique absolue à l'égard de tous les deux, finit par manifester à mon endroit les mêmes sentiments de chaleureuse sympathie qu'une cocotte qui sait qu'on ne la désire pas et que son amant a en vous un ami sincère qui ne cherchera pas à le brouiller avec elle. Non seulement il me parlait exactement comme autrefois Rachel, la maîtresse de Saint-Loup, mais encore, d'après ce que me répétait M. de Charlus, lui disait de moi, en mon absence, les mêmes choses que Rachel disait de moi à Robert. Enfin, M. de Charlus me disait, « Il vous aime beaucoup, comme Robert, elle t'aime beaucoup. » Et comme le neveu de la part de sa maîtresse, c'est de la part de Morel que l'oncle me demandait souvent de dîner avec eux. Il n'y avait d'ailleurs pas moins d'orage entre eux qu'entre Robert et Rachel. Certes, quand Charlie, Morel, était parti, M. de Charlus ne tarissait pas d'éloges sur lui, répétant ce dont il était flatté, que le violoniste était si bon pour lui. Mais il était visible que souvent Charlie, même devant tous les fidèles, avait l'air irrité au lieu de paraître toujours heureux et soumis, comme l'eût souhaité le baron. Cette irritation alla même plus tard par suite de la faiblesse qui poussait M. de Charlus à pardonner ses inconvenances d'attitude à Morel, jusqu'au point que le violoniste ne cherchait pas à la cacher, ou même l'affectait. J'ai vu M. de Charlus entrant dans un wagon où Charlie était avec des militaires de ses amis, accueilli par des haussements d'épaules du musicien, accompagné d'un clignement d'yeux à ses camarades. Ou bien il faisait semblant de dormir comme quelqu'un que c'est arrivé excède d'ennui. Ou il se mettait à tousser, les autres riaient, affectait pour se moquer le parler mièvre des hommes pareils à M. de Charlus. Attiré dans un coin Charlie, qui finissait par revenir comme forcé auprès de M. de Charlus, dont le cœur était percé par tous ses traits. Il est inconcevable qu'il les ait supportés, et ces formes chaque fois différentes de souffrance posaient à nouveau pour M. de Charlus le problème du bonheur. Le forçait non seulement à demander davantage, mais à désirer autre chose. la précédente combinaison se trouvant viciée par un affreux souvenir. Et pourtant, si pénibles que furent ensuite ces scènes, il faut reconnaître que les premiers temps, le génie de l'homme du peuple de France dessinait pour Morel, lui faisait revêtir des formes charmantes de simplicité, de franchise apparente, même d'une indépendante fierté qui semblait inspirée par le désintéressement. Cela était faux. Mais l'avantage de l'attitude était d'autant plus en faveur de Morel que tandis que celui qui aime est toujours forcé de revenir à la charge, d'enchérir, il est au contraire aisé pour celui qui n'aime pas de suivre une ligne droite, inflexible et gracieuse. Elle existait de par le privilège de la race dans le visage si ouvert de ce Morel, au cœur si fermé. Ce visage paré de la grâce néo-hellénique qui fleurit aux basiliques champenoises. Malgré sa fierté factice, souvent, apercevant M. de Charlus au moment où il ne s'y attendait pas, il était gêné pour le petit clan, rougissait, baissait les yeux, au ravissement du baron qui voyait là tout un roman. C'était simplement un signe d'irritation et de honte. La première s'exprimait parfois, car si calme et énergiquement décente que fût habituellement l'attitude de Morel, elle n'allait pas sans se démentir souvent. Parfois même, à quelques mots que lui disait le baron éclatait de la part de Morel sur un ton dur, une réplique insolente, dont tout le monde était choqué. Monsieur de Charlus baissait la tête d'un air triste, ne répondait rien. Et avec la faculté de croire que rien n'a été remarqué de la froideur, de la dureté de leurs enfants qu'ont les pères idolâtres, n'en continuait pas moins à chanter les louanges du violoniste.
Nous vous avons proposé ce jour une nouvelle émission de notre série consacrée à Marcel Proust. Cette émission était dédiée au thème du Baron de Charlus dans l'œuvre de Marcel Proust. Vous avez pu entendre différentes plages musicales au fil de cette émission. Il s'agit d'extraits d'une musique de Stravinsky, Les Danses concertantes, dirigée par Stravinsky lui-même à la tête du Columbia Symphony Orchestra. La diction des textes de Marcel Proust était assurée, comme dans toute cette série, par notre partenaire dans cette aventure radiophonique, André Bonhomme. Thank you.
Thank you.